Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui India Desjardins, créatrice du personnage d'Aurélie Laflamme, héroïne adulée des adolescents, devenue un phénomène de la littérature jeunesse ces dernières années. En compagnie d'Aline Apostolka, animatrice des midis littéraires de la Grande Bibliothèque, vous découvrirez ses sources d'inspiration, ses rituels d'écriture et les aspects de sa vie qui ont fait naître le désir de création. La rencontre sera suivie d'une période de questions. Nous terminons aujourd'hui la série des midis littéraires et je voudrais remercier ici Aline Apostolka pour son merveilleux travail et sa généreuse contribution à une meilleure connaissance de nos écrivains. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer l'entretien que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail de BANQ. Merci et bonne rencontre.
Bonjour. Bonjour. Alors, on est dans les remerciements aujourd'hui. Moi aussi, j'ai prévu quelques petits remerciements. On a un public plus jeune que d'habitude. Merci d'être venu. Je suis effectivement heureuse et émue aussi pendant ce dernier midi littéraire. C'est une série qui a débuté pour ceux qui, les fidèles qui sont venus ici en septembre 2006 avec une femme française de 82 ans à l'époque, Benoît de Groux, et qui s'achève avec une femme québécoise de 33 ans, on peut encore dire son âge. Quand on a 30 ans ou 82 ans, on peut dire son âge. Entre les deux, on ne dit plus. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il s'achève avec une jeune femme québécoise, India Desjardins. En soi, c'est un parcours qui me paraît symbolique, d'une rive à l'autre de la littérature francophone, une transmission aussi qui s'ouvre sur la jeunesse et sur la littérature pour les jeunes lecteurs, donc, pour moi, sur l'avenir de la littérature. Au long de ce parcours de 3 ans, 27 écrivains sont venus ici partager leur expérience, leurs réflexions, leurs confidences sur les liens secrets entre leur vie et leur œuvre et sur le processus créatif dont celle-ci est l'expression. D'habitude, les écrivains écrivent et nous lisons leurs livres. Ici, ils sont venus nous livrer l'envers, souvent inaccessible et subtil, de ce qui a fait d'eux des écrivains. J'ai été personnellement très attachée à recueillir leurs témoignages, si précieux pour nous tous, il s'agit quand même d'un corpus aussi, et pour notre patrimoine, et je tiens à vous remercier pour votre fidélité en ce lieu aussi, cette grande bibliothèque qui est un cœur battant de la littérature et de cette transmission littéraire d'une génération à une autre que j'évoquais, le cœur battant de la littérature dans cette métropole de Montréal. Je tiens aussi à remercier publiquement Lise Bissonnette, Lynn Petitclerc, Christine Bouchard, Dominique Parent et Jocelyne Dazé. Alors, c'est par ordre d'apparition à l'écran, comme on dit. Pour leur confiance et leur soutien tout au long de cette série. J'ai aussi appris, et je suis heureuse de partager avec vous en primeur, mais il ne faut pas trop en parler parce que ce n'est pas encore définitivement signé, mais les midis littéraires sont censés se retrouver sur le canal Savoir à partir de septembre prochain. Donc, vous pourrez les revoir à raison de 13 par an. C'est donc une nouvelle vie qui s'annonce pour cette série, après celle-ci, et j'espère que vous aurez aussi autant de plaisir à les revoir et à les réécouter en images. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons les caméramans. Je ne les ai jamais remerciés, mais je vais le faire aujourd'hui parce que c'est vraiment le jour pour faire ça. Alors donc, ici, nous avons toujours cherché à offrir un panorama le plus juste et le plus exhaustif possible des différents visages de la littérature québécoise d'aujourd'hui. Et ainsi, finir avec une plume aussi talentueuse, une jeune auteure qui a su enflammer, c'est le cas de le dire, l'esprit et l'imaginaire des adolescentes avec une série intelligente et proche de la vraie vie et tout à fait à propos. Je suis heureuse que le hasard ait fait qu'on finisse avec India Desjardins. Parions que ce sera tout à fait passionnant d'apprendre comment, en un parcours fulgurant de bientôt 6 romans en 4 ans et d'une série en 4 ans. Et d'une série qui va en comprendre 8 au total. Et nous avons d'ailleurs celui qui va sortir la semaine prochaine est ici. Alors peut-être si on a le temps que India voudra bien nous lire un petit extrait. Donc je disais, il sera certainement passionnant d'apprendre comment elle a réussi à prendre la place qui est désormais la sienne. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble India Desjardins. Bonjour.
Bonjour.
Traditionnellement, c'est votre place. On a une sorte de rituel ici qui s'achève. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour.
Et c'est ça que je disais, c'est vraiment le hasard des calendriers a fait qu'on finit avec vous, mais finalement, on est
Moi, je pensais que c'était comme un privilège.
Ben, exactement. Peut-être que c'est un privilège pour vous, mais pour moi aussi.
C'est comme un dessert.
Oui.
Mon personnage trippe sur le chocolat. On peut dire que je suis le chocolat.
Bon,
ben, des rencontres littéraires.
C'est très bien. Moi, j'ai pas droit au chocolat normalement, mais bon.
Non, pourquoi?
Oh, ben si, j'en prends, c'est sûr.
Ben là, j'espère. C'est tellement bon.
Oui, c'est sûr. Mais c'est ça que
on parle de chocolat.
En réfléchissant pour préparer l'entrevue, je me disais ça. Je me disais que il y a vraiment une notion. Si on regarde, qu'on a commencé avec Benoît de Groulx et qui s'est tellement battu pour les femmes, bien sûr, mais pour la littérature féminine, qui a imposé aussi, une façon et une liberté aussi d'expression, de propos. Alors, on a l'impression, moi, parce que je suis dans la génération du milieu, mais encore plus vous, que aujourd'hui tout est possible pour nous en littérature. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a commencé dans les années 50, c'était beaucoup plus difficile. Donc il y avait vraiment quelque chose de très symbolique et qui me semble aller beaucoup dans l'esprit des midis littéraires.
Vous parlez difficile au niveau des genres qui étaient publiés ou difficile au niveau d'aller chercher un public?
Au niveau de la crédibilité de l'écrivain, c'est-à-dire du fait d'être un écrivain et d'être une écrivaine. Aujourd'hui, alors ça c'est la France, parce qu'elle est française, il y avait des écrivaines françaises bien sûr de tout temps, mais c'était les exceptions. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez normal et qui a aussi une couleur de littérature féminine. Quant à la littérature québécoise, j'ai découvert il y a déjà à peu près 20 ans qu'elle était devenue très féminine parce que les écrivaines ont une grande place dans la littérature québécoise. Et donc, c'est une façon aussi de clore ces midis littéraires par une réflexion sur le considérable chemin qui a été parcouru en peu de temps. Alors, voilà. Et le chemin parcouru, le vôtre, est fulgurant parce que je pense qu'on n'avait jamais... Si, on a reçu Evelyne de la Chenelière, qui est à peu près dans vos âges,
mais
on a aussi reçu des écrivains qui, donc, était d'une autre génération. Mais la question reste toujours la même, ici, la première question, qui est la première de l'entrevue et la première de votre vie. Nom, prénom, date et lieu de naissance.
Desjardins, India, c'est mon vrai nom. Et lieu de naissance?
Oui.
Sur le chat, là, c'est ASV, il faut dire l'âge aussi. Âge, sexe, ville. ASV. Je me souviens, je ne sais pas si c'est encore à mode. Ceux qui chatent, c'est encore à moi de dire ça? ASV, les jeunes de la salle, ASV, dites-vous encore ça?
Je ne vais pas pouvoir vous répondre, ça c'est sûr et certain.
OK, lieu de naissance. Je suis née à Val-Bélair. Ma première rue, c'était la rue Calcutta, puis c'est la capitale de l'Inde. Donc, c'est vraiment spécial.
Enfin, ce n'est pas la capitale de l'Inde, mais c'est une ville importante.
C'est pas la capitale,
Non, c'est Delhi, la capitale.
Ah, oui.
Mais bon, c'est pas grave, il vaut mieux s'appeler India que
Calcutta. J'ai coulé mon cours de géographie. Dans ma tête, c'était la capitale.
C'est pas grave.
Ça c'est une ville importante.
Ça l'a été pendant l'Empire britannique.
J'ai retenu une information.
Ah!
J'ai retenu une information.
en tout cas, c'est vrai qu'India, ça fait plus un nom indien qu'un nom québécois.
Moi, j'aurais aimé ça que mes parents m'appellent India. Je suis née en 1976.
Oui.
Et vous savez, le film de Marguerite Duras, India Song, est sorti en 1975.
Oui.
J'aimerais ça dire Oui, j'ai été appelée India à cause de Marguerite Duras, India Song. On dirait que ça irait avec mon métier.
Ça ferait très littéraire.
Ça ferait littéraire. Ça ferait, tu sais, que mes parents ont une grande culture et tout ça, tu sais, qui trippaient sur Marguerite Duras. Mais c'est pas ça du tout. Mes parents sont allés en voyage de noces en Floride. Super quétaine. Genre, ils ont des photos là, avec des chandails à grosses fleurs, puis tout.
Ah, oh, c'est sûr, dans les années 75, oui, dans les années 76, oui.
Puis, ils sont tombés en amour avec une guide touristique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, le guide touristique en Floride, le bonjour, voici la plage, je ne sais pas pantoute. Voici les crabes, voici le soleil, voici la chaleur. La guide touristique s'appelait India. Et ils ont vraiment trippé sur elle, puis ils ont décidé d'appeler leur première fille comme ça. C'est comme quétaine romantique. C'est semi-quétaine, semi-romantique, l'histoire de mon nom. Mais oui. Mes parents ne sont plus ensemble. Fait que, tu sais, même si, bon, tu sais, on va appeler notre première fille, India, oui, 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 je t'aime. Mais ils sont divorcés maintenant, comme tous les parents de cette époque-là, à peu près.
Est-ce que vous connaissez Marguerite Duras et vous l'aimez?
Oui, je l'aime beaucoup.
Bon, alors.
Oui. Je suis même allée, je vous ai dit tout à l'heure, on s'est parlé d'un loge.
Non, mais on est entre nous, on est dans notre salon.
Oui, je vous ai dit tout à l'heure que je suis jamais allée à Paris, mais je suis allée à Trouville.
Ah oui?
Oui, qui est un petit village de Normandie, où est-ce que certains Parisiens...
C'est ça, en fait, c'est Deauville, et puis la côte de l'autre côté du pont, c'est Trouville. Voilà.
Et je suis allée devant l'hôtel des Roches-Noires, où est-ce qu'elle a terminé sa vie.
Oui.
Puis j'avais vraiment une émotion, là. J'avais vraiment, tu sais, je regardais ça en me disant, waouh, tu sais. Même j'en parle avec émotion. J'étais là, waouh, c'est là qu'elle a terminé sa vie. Oui. Tu sais, elle a peut-être écrit des choses. J'avais vraiment une émotion en étant devant l'hôtel des Roches-Noires.
Alors, quand vous irez à Paris, vous irez derrière la fontaine Saint-Sulpice,
okay,
où elle a vécu avant de finir sa vie.
Oui, c'est sûr que
j'irai. Mais, alors, vous allez à Trouville, puis vous ne faites pas 200 km pour aller à Paris.
Ben c'est parce que c'est un festival de courts-métrages. Parce que je lui ai dit que je ne suis jamais à la
Paris. Oui, oui, c'est vrai.
Puis, on faisait des films pendant qu'on était là. Donc, on est resté là, puis on faisait du montage. Donc, j'ai vraiment bien visité Trouville, même si ça prend 10 minutes. Deauville aussi, mais je ne suis pas allée, c'est vrai, je ne suis pas allée à Paris.
J'ai passé beaucoup de temps là dans mon enfance, alors ça va, je connais. Et puis, je vous disais ça en joke, on n'est pas obligé
d'aller à Paris.
Il y a tellement de choses d'abord à faire en France.
Oui, puis j'aimais tellement ça, être là, à Trouville. C'est, premièrement, là, il y avait des petites terrasses, il y avait la mer.
Les crêperies.
Les crêperies, mais j'ai tellement mangé les meilleures salades et les meilleures crêpes du monde. J'étais là, mais pourquoi j'irais ailleurs qu'ici? Là, il y a les meilleurs restaurants du monde ici. Mais j'imagine que c'est parce que je n'ai pas connu autre chose. Là, mais je ne sais pas, je me souviens encore de leur vinaigrette de salade, tellement que c'était bon, en tout cas.
Si vos parents étaient allés à Trouville pendant leur voyage de noces, ils vous auraient
appelé... Je m'appellerais peut-être Marguerite!
Oui!
Mais vous savez que mes initiales, c'est ID.
Oui.
Puis je fais un travail d'ID. Puis mes parents, ils ont failli m'appeler Marina. Puis si mes initiales avaient été MD, je me suis toujours demandé si j'aurais été médecin. Je sais pas.
C'est vrai qu'il y a des choses qui prédestinent. Oui, moi, je m'appelle ça. AA, c'est comme les alcooliques
anonymes. Oh, est-ce que...
je les fréquente pas, je
m'assure. Okay.
Mais, donc ça, c'est 76, effectivement, à Québec, mais vous déménagez à Montréal à l'âge de 20 ans. Ça veut dire que vous avez passé toute votre enfance et adolescence à Québec.
Oui.
Et dites-moi donc, vous parlez de vos parents en voyage de noces, mais qui étaient-ils?
Ma mère était journaliste, elle l'est encore.
Oui.
Mon père a travaillé beaucoup dans le... Il a été expert en sinistre, ça, mettons, quand il y a un feu... pour réclamer des assurances, il faut faire appel à un expert en sinistre qui, va analyser un peu les lieux et tout ça. Et maintenant, il a sa compagnie de nettoyage après sinistre, c'est-à-dire que, mettons, il y a un feu, il y a encore un feu, il faut comme que l'endroit, l'air soit sain. Donc, il y a des machines pour ça qui font qu'on nettoie l'air et les meubles et tout ça. Donc, le travail de mon père, j'ai toujours eu un petit peu plus de difficulté à l'expliquer parce que c'est vraiment un autre monde que le mien. Mais c'est ça. Ma mère est journaliste. Mes parents ont toujours été des gens qui... ma mère était syndiquée au Soleil, puis elle a quitté pour aller à la pige. Mon père, justement, avait un bon travail qu'il a quitté pour partir sa compagnie. Mes parents sont du genre très libre. Donc, j'ai toujours été encouragée à faire des projets qui me tentent.
Dans l'indépendance, c'est la créativité, parce qu'ils sont libres, mais surtout créatifs. Créer des choses par eux-mêmes.
Oui, c'est ça.
Oui. Puis... Est-ce que vous êtes fille unique?
Non, j'ai une sœur qui s'appelle Gina, et ma sœur est journaliste aussi, plus dans le domaine de la technologie. Elle est chroniqueuse, entre autres, à Musique Plus, à l'émission Monsieur Net, qui est une émission de jeux vidéo, technologie, tout ça. Puis elle fait beaucoup de... Elle est recherchiste aussi, donc...
Elle s'appelle Gina. Est-ce que vos parents étaient allés à Tchinechita?
Non. Ça, je ne sais pas l'histoire du nom de ma sœur.
Bah.
Je me demande si... Moi, je ne me suis pas inventé une histoire. On dirait que ça me frappe, là. Non, c'est pas vrai. Je pense que l'histoire est vraie. En tout cas, il me semble que je me souviens qu'on me l'a raconté. Je ne l'ai pas inventé pour un livre. Non, c'est la vraie histoire de mon nom.
Ah ben, il n'y a pas de problème. Ce qui est effectivement frappant, c'est de s'appeler India quand on est né rue Calcutta.
Oui.
Et le tout à Québec.
Oui.
Mais dans votre petite
enfance... J'ai fait
enfant...
beaucoup rire de moi quand j'étais petite. Là,
ah oui,
avec
ah oui?
Ben oui, parce que, tu sais, tout le monde s'appelait Mélanie, Valérie, Julie. Puis moi, je m'appelais India. Fait que c'est sûr que beaucoup de gens riaient de moi. Puis même, je me souviens, en cinquième année, un professeur... Tu sais, les professeurs, ils écrivent toujours au tableau là, des noms. Ben, mettons, Mélanie a deux pommes. Elle en mange une. Combien reste-t-il de pommes?
Alice court avec René.
Bon, tu sais, des choses comme ça. À 125 km/h. Non, en tout cas. Puis, elle courrait vite. Hein. Mais, peu importe. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, puis là, je suis allée demander à mon professeur, pouvez-vous faire un problème de maths avec India? Puis là, il dit, ben non, je peux pas faire ça. Puis je dis, ben pourquoi? Il dit, ben parce que tu es toute seule dans la classe à t'appeler de même. Puis là, je dis, ben Mylène aussi est toute seule. Puis vous avez fait un problème de maths avec elle. Fait qu'il dit, oui, mais Mylène est toute seule dans la classe, mais il y en a d'autres dans le monde. Puis moi, je me sentais tellement rejet, là. Puis je rêvais qu'il y ait une chanson avec mon nom, qu'il y ait un personnage avec mon nom, tout ça. Puis là, il y a eu Indiana Jones, 1981, ah! Indiana Jones.
Je sais, mais attendez, on est rendu au 81, là.
C'est pas si loin!
Non, mais Indiana Jones! C'est Indiana Jones!
Oui,
donc
mais
là, vous êtes vraiment rattrapé, là.
Le film Indiana Jones, 1981.
Ah, oui.
Moi, je me dis, enfin, un personnage avec un nom qui ressemble au mien, ça doit être une belle princesse, puis tout ça. Et là, le film sort et c'est un homme barbu qui court dans la jungle. Je peux zéro m'identifier.
Ben, donc, bel homme, par exemple. Quand même. Et puis, bon, passionnant. Mais en plus, je vous rappelle que dans son film, il déteste son nom. Il le reproche à son père. D'ailleurs, c'est une histoire psychanalytique. Il reproche à son père de l'avoir appelé comme le chien.
Non, en fait, c'est pas ça.
C'est histoire de prénom.
Ma connaissance d'Indiana Jones. En fait, c'est qu'il ne s'appelle pas Indiana, mais il déteste son nom parce qu'il s'appelle Junior. Il s'appelle comme son père.
Oui, il s'appelle Junior.
Alors, il a pris le nom du chien. Le chien s'appelait Indiana.
Et en plus, on l'appelle Indy tout
fait
le temps.
Fait que moi, mon nom, c'est comme un nom de chien, tu sais. Fait que c'est encore pire.
Je n'avais pas exactement pensé à ça, vous voyez, mais en tout cas, votre professeur qui dit, oui, des Indiens, il n'y en a pas beaucoup, mais ceci dit, en Inde, il y a un milliard de personnes.
Donc, et qui s'appelle India?
Ben, il y en a beaucoup qui s'appellent India en Inde.
Ah oui? Moi, j'ai déjà travaillé pour un homme qui venait de l'Inde. Et quand je lui ai dit mon nom, il a vraiment ri, là. Il a ri pendant 2 minutes en disant, comme si j'appelais mes enfants Canada. il se pouvait plus trouver ça drôle.
Mais est-ce que, justement, vous êtes rattrapé, vous, en l'appelant votre héroïne Aurélie? Ah là, il n'y a pas de problème.
Mais au début, c'était India. Bien, justement, mon premier roman.
Le premier roman, India Jones.
C'était vraiment pour faire un clin d'œil à Indiana Jones.
Oui.
Puis pour donner mon nom à un personnage.
Oui.
Tu sais, je l'ai faite moi-même. J'ai décidé de le faire moi-même.
On va retourner dans votre petite enfance.
Oui.
Pour remonter le cours du temps.
D'accord.
Et justement, parlez-moi de la petite fille que vous étiez. Mais déjà, est-ce que vous étiez une petite fille sociable? Est-ce que vous aimiez l'école? Quelle était votre relation dans votre famille et votre place dans votre famille et à l'extérieur de la famille?
Mm-hmm. Moi, j'étais une petite fille assez timide. J'étais dans la lune. Je suis certaine que si ça avait été populaire dans le temps, j'aurais été diagnostiquée déficit d'attention parce que j'étais très, très dans la lune. Puis pour moi, lire, c'était très compliqué, là. Même encore aujourd'hui. Là. Lire une page, là, il faut que je sois dans des conditions idéales, que j'entende pas de bruit. Puis même à ça, quand je lis... j'ai plein d'idées, puis il faut souvent que je relise, là. Donc, j'aimais pas vraiment lire quand j'étais petite. C'est vraiment ma mère qui a vraiment développé des trucs pour m'amener à lire, comme me donner des choses qu'elle pensait qui m'intéresseraient. Puis là, elle me disait, lis juste une page, lis juste cinq pages, tu vas voir. Puis là, elle me le vendait, elle me faisait un bon pitch de vente sur le livre, tout ça. Donc... Donc, ça, j'ai appris à aimer lire. Puis, je sais ça, j'étais très timide, j'étais rêveuse, j'étais beaucoup dans la lune. J'ai chez
vous
moi
étiez
des...
déjà dans votre propre imaginaire,
oui,
en fait.
Oui, j'avais 8 ans, puis j'écrivais des petits romans, tu sais, que je le faisais pour moi. Puis c'est vraiment drôle parce que je les ai chez moi, ces petits romans-là.
Ah oui?
Oui, puis c'est tout le temps, je dessinais une page couverture, puis c'est tout le temps une petite fille, puis un numéro de tombe. Comme si à 8 ans, je faisais exactement la même chose que je fais aujourd'hui. Puis c'est intéressant quand je revois ça, de voir une petite fille sur plusieurs tombes, alors que je fais ça maintenant, tu sais, je fais l'histoire d'une petite fille sur plusieurs
tombes. D'où venait ce besoin d'écrire vos propres histoires? Est-ce que c'est parce que vous étiez plutôt solitaire?
J'en avais dans ma tête. J'avais des personnages qui parlaient dans ma tête. Fait que j'étais portée à tout le temps les écrire. Puis aussi, quand on me racontait une histoire, quand j'étais petite, j'aimais pas, je me disais, oh, moi, je l'aurais pas faite de même.
Ah oui! réécrire l'histoire!
Je la réécrivais, oui. Ouais. Donc, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup l'univers des princesses, puis des sorcières, puis tout ça. Donc, j'en avais jamais assez. Donc, je m'en créais. Puis c'est ça qui est arrivé avec mon premier roman aussi. J'aimais beaucoup lire des histoires d'amour, des histoires, des comédies romantiques, puis j'en avais pas assez. Puis là, j'ai voulu écrire un livre que ça m'aurait tenté de lire.
À part la littérature, qu'est-ce que vous aimiez à l'école? Est-ce que vous aimiez l'école, d'ailleurs?
J'aimais l'école. J'étais quand même assez bonne. J'aimais beaucoup le français.
Oui? Oui,
ça, j'aimais beaucoup ça. J'aimais pas les maths. J'aimais apprendre. J'aimais beaucoup l'histoire. J'aimais beaucoup apprendre des choses de l'histoire. Puis, étonnamment, la chimie. Je ne sais pas pourquoi, ou l'algèbre, des choses comme ça. Ça, j'étais bonne là-dedans.
Mm-hmm.
Ça, j'aimais ça faire ça. Mais
est-ce que vous étiez une petite fille sociable, en dehors du fait que vous aviez des histoires et votre monde à vous, on va dire? Est-ce que vous étiez une petite fille sociable qui avait beaucoup d'amis?
Pas vraiment, non. J'avais pas beaucoup d'amis. J'étais pas vraiment très sociable. Ça m'a pris du temps même à acquérir ça dans ma vie. Je dirais que c'est arrivé dans la vingtaine. Mmh. Parce que je suis extrêmement timide, puis c'est pas facile pour moi d'être en contact avec les autres.
On dirait pas comme ça, mais enfin, évidemment, les choses évoluent.
Parce que là, j'ai un spot sur moi, fait que j'ai l'air...
c'est vrai que, mettons,
non, mais j'ai appris. J'ai vraiment appris développer certaines aptitudes sociales parce que pour moi, c'était terrorisant de rencontrer des gens. Je savais pas comment entrer en contact avec des gens. Pour moi, c'est vraiment plus facile d'être dans ma bulle, puis d'écrire, puis d'être seule. C'est pour ça aussi que j'ai
Est-ce qu'il y a une personne dans votre famille avec qui vous étiez plus proche?
Bien, c'est sûr ma mère.
Oui.
Oui. Oui.
Et je veux dire, dans votre famille élargie aussi, ou est-ce que vous lui montriez... Votre complicité avec elle était aussi... Vous m'avez dit, vous avez expliqué que c'est elle qui vous a donné le goût de lire. Oui. Est-ce que vous partagiez vos écrits avec elle? Est-ce que c'était des choses
c'est
que vous
montriez? C'est sûr que c'est ma number one fan. Donc, ma mère, elle, j'y montrais mes petits romans de quand j'avais 8 ans. Elle m'aurait fait publier. Là.
Ah oui.
Tu sais, des fois, les parents... Puis moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, les parents qui vont tout de suite vouloir publier leur enfant parce que... Tu sais, moi, je pense que j'étais plus mature que ma mère. Puis je disais non, je ne suis pas prête. Puis j'avais raison. Elle aurait envoyé mes manuscrits puis tout ça dans des maisons d'édition. Mais je pense que l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui doit mûrir, qui doit grandir. Je pense que quand... Puis même si je dis ça, je trouve qu'il y a de très bonnes œuvres de jeunes auteurs qui sont sortis. Je veux vraiment pas dénigrer ça parce que j'en connais puis je trouve ça très bien qu'il y ait des jeunes qui poussent leur talent puis qui décident d'aller de l'avant avec ça. Mais... Je pense que ça ne devrait pas être systématique que lorsqu'un jeune a du talent, qu'on veuille tout de suite le propulser dans une carrière. Et moi, je pense que, personnellement, j'aurais pas été prête, quand j'étais adolescente, à tout de suite à être propulsée dans une carrière. Je suis très contente d'avoir livré toutes les batailles que j'ai eues à livrer. Pour faire mes livres.
Et que tous les écrivains ont eu à livrer, et parfois pendant beaucoup plus d'années que vous. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai écrit... Mais c'est moi qui les ai écrits. Ça, c'est une chose que moi, je précise à chaque fois. Mais une série avec mon fils qui a 13 ans maintenant, avec des personnages que lui a inventés quand il en avait 9.
Wow.
Et l'autre avec... Aussi, mais c'est, enfin, ils ont raconté l'histoire, ils me racontaient l'histoire, et moi, je les ai écrites. Donc, je vois très bien la distinction que vous faites. Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi la notion d'être aussi un écrivain à part entière, et puis d'arriver à décider de ce qu'on fait, mais aussi à se retrouver en train de vendre ce qu'on a écrit, et pas ce que sa mère a trouvé bon et puis qu'il a publié. Donc,
oui, c'est ça, il faut défendre. C'est un travail aussi, c'est... Ça demande beaucoup d'être dans les salons du livre, tout ça.
Et néanmoins, vous avez publié tôt, donc je suppose que c'est quand même quelque chose qui... enfin, dans la vingtaine, on est déjà prêt quand même.
J'avais 28 ans quand a été publié Les aventures d'Enzo.
Oui, là, ça va, mais il y a effectivement toute une démarche. Et c'est justement la démarche à laquelle je veux revenir. Oui. Là, on est dans la petite enfance, on va évoluer un petit peu.
Okay.
Donc... Dans l'adolescence, parce que en plus, est-ce que c'est un univers que vous connaissez bien, dont vous vous rappelez, dont vous avez dit que vous vous êtes inspirée beaucoup pour écrire votre série, Aurélie Laplante.
Pas de mon adolescence, mais des émotions
émotions
de l'adolescence, oui.
Donc ça veut dire que vous en êtes encore proche. Enfin, je veux dire, vous êtes capable de vous transposer dedans. Alors, quelle était votre adolescence à vous?
Ben, je pense que j'étais très très responsable. Tu sais, je pense que je suis plus adolescente aujourd'hui que je l'étais à l'époque, parce que j'étais très responsable parce que mes parents étaient divorcés. Donc j'avais beaucoup à m'occuper de ma sœur qui était plus jeune que moi.
Combien de différence avec vous?
2 ans.
D'accord.
Ma mère travaillait beaucoup tout ça, donc j'ai fait partie un petit peu je m'occupais beaucoup de ma mère aussi parce que, tu sais, quand tu es une personne sensible, tout ça, le divorce, ma mère avait parfois de la tristesse, tout ça. Donc, j'étais portée, moi, à m'occuper beaucoup d'elle.
Une mère divorcée et pigiste, mettons que je suis assez bien placée pour savoir ce que ça veut dire.
Donc,
avec deux enfants.
Oui, c'était... Donc, moi, je prenais beaucoup de responsabilités sur mes épaules. J'étais du genre à préparer un souper avant que ma mère arrive de travailler, tout ça. Donc, tu sais, des fois, mon souper, là, c'était vraiment des boulettes cordon bleu, tu sais.
Ah, mais on est content de les trouver pareil.
Bon, oui, c'est pas du rose beef, puis tout ça, là. Mais c'est ça. Donc, j'étais une adolescente très, très responsable. Puis ça, je pense que je l'ai gardé. Ça fait que je suis une personne très disciplinée. Mais je travaillais, j'avais beaucoup de... J'étais, c'est ça, j'étais... Puis, bon, il y avait des cours où est-ce que j'étais moins... bon, je vous l'ai dit tantôt, j'ai coulé ma géo, des choses comme ça. Tu sais, j'avais beaucoup de responsabilités, puis il y en a que je délaissais, comme certains cours. Mais j'étais une amoureuse, une passionnée. Tu sais, quand je tripais sur un gars, tu sais, c'était... tu sais, mon premier amour, ça a été un grand amour. Puis, tu sais, je me souviens de ça.
Mais là, vous ne parlez pas de votre préadolescence. Là, on est rendu plus haut. À quel âge on est rendu là?
Oh, moi, j'ai tout mis ça dans un paquet. Là. Quand vous m'avez dit adolescence, j'ai comme tout mis ça dans un paquet.
D'accord, OK.
Mais,
pourtant, c'est très différent, avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans et 18 ans.
18 ans, c'est l'adolescence encore, sûrement. Mais moi, j'ai 32, puis je suis adolescente encore. J'ai pas passé.
Oui,
pas,
non, mais traditionnellement, l'adolescence, c'est jusqu'à 18 ans. Bon, il y en a pour qui ça dure même beaucoup plus tard, hein, c'est pas un problème. Ça, c'est l'esprit adolescent, mais en tant que tel, ça commence vaguement à 12 ans, puis ça se finit normalement vers 18.
Ben, c'est ça.
Mais c'est pas, c'est des âges très, très différents.
Oui.
Très, très différents. Il y a toute une révolution là-dedans. C'est 6 ans comme 6 continents.
Mm. Ben, pendant toute cette période-là, je dirais que c'est ça. J'étais. Je pense que je suis toujours la même. C'est-à-dire, le fond de ma personne, c'est vraiment une personne sensible, très sensible à son entourage, à ce que son entourage soit bien, puis à m'occuper des autres. Tu sais, je m'occupais beaucoup des gens autour de moi. J'avais pas beaucoup d'amis. Les amis que j'avais étaient importantes. Quand je les perdais, parce que ça arrive à l'adolescence, t'as des chicanes, j'avais beaucoup de peine. Donc, c'est ça. Puis il y a eu quelque chose de très important pour moi dans mon adolescence. Ça a été mon minou, Sybille. Qui maintenant est dans mes livres, mais qui a été avec moi de 11 ans jusqu'à 29 ans et qui a été vraiment l'élément déclencheur pour moi de ma série « Aurée de la flamme ». Mais pour moi, je dirais que Sybille, c'est ce qui représente mon adolescence.
Ah oui.
Ce minou-là qui a été de ma première peine d'amour à mon premier appart, au divorce de mes parents. T'sais, là, pour tous les points culminants de mon adolescence.
C'est comme dans le film Marley et moi, où il y a un chien qui est...
Ah, je l'ai pas vu!
Mais c'est l'histoire d'une famille sur, je sais pas, au moins...
Ouais?
Je sais pas, 15 ans, peut-être, à travers la vie d'un chien.
Ah, ouais, c'est intéressant.
Mais, justement, est-ce que vous écriviez toujours pendant l'adolescence?
Oui.
Ces petits livres que vous avez commencé à écrire?
Ben là, j'ai écrit des plus gros livres, parce que là, je lisais plus.
Oui.
Je lisais ce qu'on appelle des cœurs à cœur. C'est une série de livres qui existait à cette époque-là. Je lisais beaucoup des cœurs à cœur, puis je lisais des Mafalda aussi, je me souviens de ça, des Mafalda, c'était assez féministe, hein, tu sais, elle était assez revendicatrice. Mais ça, je lisais des cœurs à cœur, des petits romans de comédie romantique, puis j'en ai écrit un. Donc, je tripais sur deux gars, là, puis là, eux autres, ils ignoraient mon existence parce que j'étais une fille plus ordinaire, puis là, eux autres, ils tripaient sur une autre fille, là, la chick qui frenchait tous les gars. Puis c'est ça, puis là, le soir, tu sais, j'inventais dans ma tête qu'ils tripaient sur moi et qu'ils se battaient pour mon amour. Puis là, je leur disais, calmez-vous, un jour, je choisirai entre vous, mais pour l'instant, vous ne m'intéressez pas. Fait que c'était le contraire dans mes rêves. Puis là, tu sais, je trouvais que tant qu'à penser à ça, j'ai décidé de l'écrire.
Est-ce que vous pensez que tous les adolescents, qui sont tous plus ou moins dans, un jour dans une situation comme ça, toujours, enfin, on est toujours le rejet de quelqu'un et puis l'admiration de quelqu'un d'autre, etc., ouais. etc. Est-ce que vous pensez que ce serait important que les adolescents aient cette expression écrite? Je veux dire, à l'école ou dans un lieu ou dans des ateliers d'écriture, est-ce que ça serait quelque chose qui serait important à développer?
C'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Tu sais, il y a du monde qui va avoir besoin de sport pour se dépenser. Il y a du monde... Donc, obliger quelqu'un à faire quelque chose alors que ça ne ferait pas partie de lui, Non, moi, je suis pas pour ça. Moi, je dis, si quelqu'un... Moi, si j'avais été une sportive, peut-être que pour, tu sais, toutes mes peines, mon rejet, au lieu de l'écrire, je serais allée lancer un ballon ou quelque chose comme
mais
ça.
Mais l'un n'empêche pas l'autre, en plus. Non, on a toujours des a priori sur... Il faut être ou. Or, il n'y a rien qui empêche l'un et l'autre.
Mais je pense que c'est bien d'encourager les gens. Si tu as quelque chose à exprimer, exprime-le. Mais tu sais, en même temps, c'est pas une obligation. C'est pas ça qui a fait que ça m'a fait du bien. C'est juste que moi, ça faisait partie de moi d'écrire. Comment je suis dans la vie, c'est que quand je vis quelque chose, ça va m'inspirer quelque chose que je vais transformer dans ma tête en créativité, puis ça va devenir une histoire.
Oui, c'est ce que Proust appelait le mentir vrai. Il n'y a pas d'écrivain qui s'inspire d'autre chose que de sa vie, celle de son entourage. On n'écrit pas avec l'histoire du voisin.
L'observation, tu sais, observer. Moi, j'aime beaucoup observer. Oui. Puis je vois des histoires partout dans la vie. Tu sais, quand je vais au parc, j'invente une histoire, je vois une histoire, puis ça peut être, même si ça se passe pas dans ma vie à moi, c'est sûr qu'on crée toujours une histoire selon notre perception, donc ce que nous sommes. Puis c'est ça après qui me nourrit pour le coucher sur
le papier.
Ça veut
dire aussi une capacité à la fois à s'imbiber, comme vous l'avez dit, quelqu'un de très sensible, de très attentif aux autres, mais en même temps très discipliné, vous l'avez dit.
Oui.
Donc ça c'est trois qualités qui sont essentielles et que vous aviez très tôt.
Oui, très jeune. Et puis moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste comme pigiste.
Oui.
Donc ça a été vraiment une adaptation, parce qu'habituellement, moi, quand j'étais chez moi, j'étais soit en congé, soit malade. Donc, dans les premiers temps où je travaillais comme pigiste, donc je travaillais de la maison, j'avais l'impression d'être en congé ou malade. Fait que j'étais plus portée à écouter des films et tout ça. Il a vraiment fallu que je développe une discipline de vie.
Oui.
Puis c'est pas facile, puis on en vient à développer des petits rituels. Comme moi, c'est de me lever, de manger, de lire mon journal, d'aller à mon ordinateur.
Oui.
Tu sais, c'est vraiment... Puis si je déroge un petit peu de ma routine, j'ai de la misère à faire mon travail. Mais j'essaye de plus en plus de déroger, parce que ça peut amener une autre forme de créativité, je trouve. Donc, j'essaye de plus en plus de sortir de ma routine.
À quel moment vous décidez que vous allez faire de votre vie professionnelle... Ou je vais poser la question à l'envers, pardon. À quel moment avez-vous décidé que ce don, qui est aussi un besoin, ces qualités, cette triple qualité indispensable à l'exercice de ce métier, à quel moment vous avez décidé que ça allait devenir votre profession? Autant journaliste qu'après écrivain, parce qu'il reste que dans les deux cas, même si l'écriture est très différente, dans les deux cas, c'est quand même... ça passe par l'écrit. À quel moment vous l'avez vraiment décidé?
Bien, pour journaliste, ça a été vraiment... j'ai suivi les traces de ma mère. Pour moi, c'était le seul métier d'écriture que je connaissais. Donc, j'allais étudier là-dedans. Pour moi, c'était le cours normal des choses. Même quand je travaillais au Journal de Montréal, là, je me voyais vraiment vieillir là. Je me voyais avec des cheveux blancs, avec mes collègues, puis ça me faisait triper là, de penser à ça. Donc, pour moi, journaliste, ça a été vraiment le cours naturel des choses. J'ai étudié là-dedans, j'ai donné mon nom là-dedans, ça a fonctionné, puis j'aimais beaucoup ça. Mais écrire des histoires, comme quand j'étais petite, à un moment donné, me manquait.
Oui.
J'ai proposé au magazine Cool, parce qu'à un moment donné, parce que moi, quand je travaillais au Journal de Montréal, j'étais surnuméraire, donc j'avais pas nécessairement un travail assuré. Donc, j'étais obligée de garder des piges. Donc, je travaillais au Journal de Montréal 4 jours semaine, une cinquantaine d'heures, je pense que ça fait. Et puis, le vendredi et les week-ends, je faisais mes piges. Je travaillais tout le temps, même des fois le soir. C'était vraiment ça. Ça a été une période de travail vraiment intense de ma vie. Et je me disais... Il y a une de mes piges, que c'était des entrevues avec des jeunes, justement, je me disais, au lieu de faire des entrevues, parce que là, il fallait que j'appelle du monde, il fallait que je book une session de photos, tout ça, je me suis dit, je vais écrire une fiction, parce que j'aimerais ça, puis en même temps, ça va me demander moins de temps, parce que pour moi, c'est plus facile. Et j'ai proposé au magazine Cool de faire le journal intime de Marie Cool, mais c'était vraiment pour me sauver du temps.
Ah oui,
c'était
oui.
vraiment pour me sauver de la job. Puis pour triper aussi, parce que j'avais envie d'écrire de la fiction, j'avais envie, puis je me disais, ça va être peut-être facile pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire le journal de Marie Cool. Je me suis battue pour ça, parce qu'au début, il ne voulait pas, puis tout ça. Puis finalement, ça a été très bien apprécié par les lecteurs. Puis c'est une chronique qui a duré 7 ans. Puis à un moment donné, écrire de la fiction, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Puis je faisais de la télé à l'époque au Canal Vox. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire de la télé, puis là, j'en faisais, puis... Ce que j'aimais, c'était quand j'arrivais le soir, puis j'écrivais à mes amis des courriels qui s'appelaient « Les aventures d'Indiana Jones ». Puis là, tu sais, ça me permettait d'écrire, puis d'inventer des choses, puis j'inventais les aventures d'une célibataire sur le plateau, tout ça. Puis mon contrat à la télé s'est terminé, puis ça m'a vraiment frappée. J'ai le goût d'écrire ça. J'aurais le goût d'écrire « Les aventures d'Indiana Jones », mais en roman. Puis ça a été un projet que, tu sais, moi, j'ai jamais rien décidé. On dirait que moi, dans la vie, j'ai eu des projets, puis il y en a qui ont fonctionné, puis il y en a qui n'ont pas fonctionné. J'avais le projet, à un moment donné, de faire de la télé, puis j'essayais plein de choses, je faisais plein d'auditions, j'étais tout le temps dans les finalistes, jamais dans les choisis. Ça ne fonctionnait pas, ça, pour moi. Ce projet-là n'a pas fonctionné. À un moment donné, j'ai eu le projet d'écrire un roman. Je l'ai écrit pendant un an. J'ai pris moins de contrats à la pige pour pouvoir... Je faisais de l'argent pour payer mon loyer, mes comptes, ma bouffe. Parce que quand on écrit un roman, c'est un projet personnel. On n'est pas payé pour faire ça. Puis en même temps, bien, pour avoir du temps pour le faire, bien, il faut sacrifier une partie de son salaire. Parce que en faisant plein d'articles, donc, bien, je gagnais plus cher. Mais là, en faisant moins, c'est sûr que je gagnais moins cher. J'ai jamais demandé d'argent à mes parents, au gouvernement. J'ai vraiment écrit mon roman comme un projet personnel. C'est vraiment ça que j'ai fait. Mais c'est ça. Donc, j'ai pas décidé. J'ai eu un projet. Puis là, je l'ai envoyé dans plein de maisons d'édition. Puis ça fonctionnait pas. Ils m'ont tous dit non. Jusqu'à temps que je persévère. Puis finalement, il y en a une qui m'a dit oui.
Alors, je vous écoute.
Mais c'est pour ça que je dis, j'ai pas décidé, là, ah oui, ça va devenir mon métier. J'ai juste essayé quelque chose.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En même temps, j'aurais tendance à dire l'inverse. D'abord, que vous êtes la fille de vos parents parce que vous avez aussi créé votre vie et votre métier à votre image et de toutes pièces. Et en suivant la méthode qui est, il n'y en a aucune autre. Je crois qu'il n'y en a vraiment aucune autre qui est, pour les gens de ce genre de métier-là, vous êtes la fille de vos parents parce que vous êtes idée.
Oui.
Donc, il y a ça aussi. Il y a le fait qu'on ne peut que avoir des idées, les proposer, et puis un jour, il y en a une qui marche pour 8 qui ne marchent pas.
Oui,
et
c'est ça.
Il y en a une
j'en
qui
ai tellement eu de projets.
Ça,
si vous saviez, là, depuis le début de ma vingtaine, j'ai tellement eu de projets. Il y en a plein qui n'ont pas fonctionné.
Mais je le crois très facilement, mais c'est, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Je crois que c'est très important que vous le disiez. Aujourd'hui un modèle pour les jeunes et qui ont l'impression que les choses se passent autrement. Elles ne se passent pas autrement, ni dans la vingtaine, ni dans la trentaine, ni même... Bon, après, on a une certaine habitude parce qu'on a des éditeurs et on a des rédacteurs en chef, etc. Mais enfin, il reste que... Le moteur dans la vie, c'est de projeter une idée et de courir après l'idée qu'on a projetée sans lâcher.
Oui.
Et ça
mais
c'est une
fois,
chose qu'il faut...
Oui.
Vous l'avez dit, discipline, mais aussi...
Persévérance. Mais moi, je dis souvent, sans lâcher, oui, mais... Moi, ce que je dis souvent dans les conférences aux jeunes, c'est qu'à un moment donné, tu as un projet, puis c'est pas fait pour toi, ce projet-là. Mm. Donc, à ce moment-là, c'est correct de lâcher. Mm. Puis, j'aime pas le... Tu sais, à un moment donné, ça a été la mode de dire aux jeunes, tout est possible, tous tes rêves sont possibles, tu peux réaliser tous tes rêves avec la persévérance. Pour moi, c'est une fausse croyance. Dans la vie, on peut avoir des rêves, on peut essayer de les réaliser, mais ça se peut qu'ils ne se réalisent pas. Puis c'est pas grave, on peut avoir un autre rêve, puis cet autre rêve-là, là, peut-être qu'on va le réaliser, mais peut-être pas. Moi, j'avais le rêve à un moment donné de faire de la télé, puis j'ai essayé à bien des endroits, puis comme je vous dis, j'étais tout le temps dans les finalistes, jamais dans les choisis. Et puis, pourquoi? Ça ne fitait pas avec moi.
Non.
C'était pas moi.
Mais ça, c'est très important à dire aussi, parce qu'on prend toujours tout personnel.
Oui.
Or, le contexte est souvent au moins aussi important que les choses. Mais je voudrais qu'on reprenne juste un épisode, voyez, on s'en va. Okay. Moi, je reviens en arrière. C'est mon boulot.
Vous n'écoutez pas les DVD en ordre?
Ben, je les écoute, mais si le DVD s'en va, oups, je reviens en arrière.
C'est
pas mal
de
regarder les DVD en repartant en arrière. Mais là, vous partez, avant de rentrer dans cette vie extra-créative, là aussi, c'est de la créativité. Avant d'être de la création, et ensuite la création elle-même a besoin de créativité, de ce moteur-là. Donc, vous êtes à Québec encore à 18 ans, puis à 20 ans, vous n'y êtes plus. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé,
moi,
ça?
C'est bien c'est pas compliqué. Moi, je suis vraiment une fille à maman, et ma mère est déménagée à Montréal, et j'ai déménagé à Montréal.
Ah, d'accord. Je pensais que c'était votre idée ou que vous quittiez votre mère.
Non, non, vraiment, j'étais pas capable de quitter ma mère. Puis elle a quitté sa job syndiquée au Journal Le Soleil pour s'en aller à la pige à Montréal. Et moi, je l'ai suivie.
D'accord.
Puis j'avais fait deux demandes dans des universités. J'avais fait une demande à l'UQAM en communication puis à l'Université Laval en communication. Puis je me disais, bien, si ma mère, elle s'en va à Montréal, puis si je suis acceptée en communication à l'UQAM, bien, je vais la suivre. Puis j'avais fait une deuxième demande dans un programme qui est vraiment pas contingenté pour la suivre anyway. Donc peu importe où est-ce que j'aurais été acceptée à l'université, j'aurais suivi ma mère à Montréal.
Et si elle était partie à Calcutta?
Sûrement, je l'aurais suivi aussi. Je serais à Calcutta en ce moment. Ouais, j'étais pas capable de quitter ma mère.
Mais votre père, lui, il est resté à Québec.
Oui, il habite est à toujours. Québec. Ouais. Puis ma sœur était restée à Québec à ce moment-là, puis elle est venue nous rejoindre un petit peu plus
d'accord.
Tard.
Donc, c'est comme ça que vous vous installez sur le plateau. Et donc, c'est ça, vous êtes une fille à idées qui fait énormément de choses, mais enfin, vous êtes quand même rentrée dans un cursus universitaire. Comment vous avez réussi à mettre tout ça en place, justement, au tout début? Ça me paraît important de le dire, tout ça. Parce que souvent, on lâche les études pour se lancer uniquement dans la pige ou pour se lancer uniquement dans la télé ou pour écrire un projet personnel. Mais vous, India Desjardins, vous avez fait tout ça. C'est important de le dire et d'expliquer la façon dont ça s'est passé.
Bien, l'université, je suis pas restée très longtemps. Je suis restée un an. Moi, j'avais l'impression de...
Donc, à l'UQAM, alors.
À l'UQAM.
D'accord, OK.
À cette époque-là, c'était l'époque où on disait, tu sais, qu'en communication, bienvenue en communication, mais vous trouverez pas de job. À ce moment-là, il n'y avait pas encore Internet et tout ça. Puis les jobs en communication, c'était... tu trouvais pas de travail. Donc, les profs, ils disaient, bienvenue dans le programme de communication, ça va vous coûter bien cher, mais vous trouverez peut-être pas de job.
Pourtant, on est en quoi, en 1996?
À peu près, ouais. Ouais. Puis tout le monde... Puis ouais, c'était vraiment... C'était à peu près là, 2-3 ans plus tard que tout est sorti, là, Internet, puis tout ça.
Et on se rend pas compte à quel point, effectivement, ça a été fulgurant.
Oui. Puis que ça a tout changé, le domaine des communications. Mais moi, en plus, j'avais étudié en communication au cégep, et là, j'avais l'impression de tout recommencer. Fait que j'avais pas de motivation parce que j'apprenais pas de nouvelles choses. Puis en plus, moi, ma mère est journaliste. Donc, moi, là, des cours de communication, là, j'en ai depuis que j'ai peut-être 5 ans.
Vous aviez déjà la pratique avant d'avoir la théorie.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je suivais ma mère dans les conférences de presse. Je la voyais. Donc, j'avais pas l'impression d'apprendre en communication. Et à cette époque-là, j'ai commencé à être pigiste. J'avais donné mon nom dans des magazines. Le magazine Cool commençait.
Oui.
Eux autres, ils m'ont engagée vraiment juste parce que j'étais jeune puis menteuse, parce que j'ai menti pour me faire engager au magazine Cool.
Ah!
Ouais, on m'a posé deux questions. On m'a dit « Parles-tu anglais? » J'ai dit « Yeah, sure. » Et je parlais pas un mot anglais. On m'a envoyé interviewer les Backstreet Boys, un groupe anglophone. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout préparé mes questions en français. Je les avais traduites en cherchant
anglais.
Les mots.
Ah,
et j'avais comme pas pensé, moi, qu'eux autres, ils me répondraient, tu sais, puis que je comprendrais rien. Donc, mais ça, je raconte souvent aux jeunes aussi pour leur dire, moi, j'ai toujours été du genre...
À créer votre chance.
Bien, quand ça me tente de faire quelque chose, je le fais, puis je me débrouille après. T'sais? Voilà. Donc, je ne suis pas du genre à dire, oh, je vais attendre d'être super bonne, je vais attendre. Moi, je suis du genre, let's go, je le fais, puis si ça ne marche pas, je m'humilierai, puis je passerai à d'autres choses.
Ben, la preuve, c'est que vous l'avez faite, l'entrevue, finalement. Après ça, vous avez dû retraduire dans l'autre sens.
J'ai donné la cassette à un ami qui était bilingue, qui m'a traduit ça pendant que moi, je tapais. Tu sais, je me débrouillais.
Ben oui.
Donc, c'est ça.
Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième?
On m'a dit, navigues-tu sur Internet? Puis là, encore là, pour les gens aujourd'hui, c'est
normal, oui.
C'est normal.
Ça commençait, oui.
Mais à l'époque, ça commençait. Google n'existait pas. Chercher quelque chose sur Internet, c'était super difficile. Il n'y avait pas des bons moteurs de recherche. Donc, j'ai dit oui, je me débrouillais très bien. Puis j'ai appris à me débrouiller sur Internet, mais quand j'ai répondu aux deux questions posées par le boss de Cool, j'ai totalement menti pour me faire engager. Là. Je voulais travailler là.
Mais en même temps, c'est...
Cool
c'est...
est encore dans mon cœur. Oui. C'est quelque chose de super important pour moi, le magazine.
Mais en même temps, c'est comme si vous aviez... c'est des mensonges. Enfin, il y a beaucoup de gens le font dans ce milieu-là
ça,
aussi.
C'est
mais
ça.
C'est une façon de dire,
quand on veut se faire
je me projette... Oui, je parle anglais. Oui, je navigue sur Internet, donc je vais être obligée de le faire. C'est une façon de se projeter.
Oui,
c'est-à-dire, on projette son projet devant, puis là, ben, il va falloir rejoindre le projet, sinon ça ne marche pas.
Oui.
Oui, c'est une obligation. Moi, j'ai eu Internet, je pense, effectivement, je vous réfléchissais à ça. C'était en France, je pense, c'était en 96.
Oui, c'est en plein dans ces années-là.
Mais c'était très... Bon, enfin. Mais... Alors, c'était des années extraordinaires quand même, tout ce que vous me racontez là, de ce bouillonnement du plateau avec la télé qui arrive derrière. Pourquoi la télé d'ailleurs?
Je ne sais pas. Moi, je pense que ça fait partie de mon côté rêveur. Moi, je pense que je me voyais... Tu sais, au Québec, on ne peut pas vendre beaucoup de livres. Un best-seller au Québec, c'est 5000 copies.
Oui.
Et moi, je pense que je me disais, tous les gens qui ont des succès littéraires, c'est des vedettes. Fait que je me disais, il faudrait peut-être que je devienne une vedette, puis là, je vais pouvoir vendre des livres. Fait que je me voyais vieille, commencer à écrire des livres, mais après avoir acquis une certaine notoriété. Je pense, là, c'est peut-être une histoire que je vous invente, parce que je ne sais pas pourquoi je voulais faire de la télé.
Mais vous savez que ça nuit très souvent d'être... une vedette de télé pour la crédibilité littéraire.
Ben c'est ça, ça n'a pas rapport, tu sais.
Mais c'est un moteur, quand même.
Mais je pense que ça, c'est... Parce que je me voyais, moi, écrire des romans, là, tu sais, mettons, à ma retraite, là. Tu sais, je me disais, à ma retraite, j'aimerais ça écrire des romans. C'est comme si je me disais, je vais me rendre là, mais...
45 ans plus tard.
C'est ça. Puis aussi... J'aimais beaucoup faire des entrevues avec des artistes. Fait que je voulais être reporter.
Ah oui, oui.
Je voulais être reporter télé. Souvent, j'avais des beaux moments qui se passaient avec les artistes, comme même avec les Backstreet Boys, que je ne savais pas parler anglais. Ça donne des moments drôles, tu sais. Puis je me disais, si c'était filmé, ça donnerait tellement quelque chose de bon. Puis, mais finalement, ça n'a jamais marché. Puis tant mieux parce que c'était pas vraiment moi, mais c'est encore moi. Des fois,
alors vous avez fait quoi comme émission justement dans toutes celles qui ont pas marché
Vox.
Et celles qui ont marché,
ouais,
c'était quoi?
C'était au Canal Vox. Oui. C'était avec Serge Laprade, je sais pas si vous connaissez, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça, c'était au Canal Vox. Ça a été là, ça a été 2 ans de ma vie.
Oui, mais c'était quand même 2 ans qui ont été extrêmement formateurs dans l'animation, l'entrevue. Qu'est-ce que ça vous a appris, vraiment?
Moi, ça m'a vraiment... ça m'a dégénée.
Ah,
c'est ça qui a fait que je suis sortie plus de ma coquille. Ça m'a appris une autre façon... Oups, excusez, j'ai comme craché. J'ai vu mon postillon faire...
Du moment qu'il n'a pas atterri ici, ça va.
C'est l'éclairage, on dirait que ça l'a grossi.
Non, pas de problème.
Ça m'a appris à sortir de ma coquille puis à m'exprimer de façon plus concise. Moi, avant, là, je racontais des anecdotes, là, ça n'en finissait plus. Je n'avais pas de structure dans ma façon de raconter. Ça m'a donné une petite structure quand je parle.
Donc, mon objectif en vous posant cette question, c'est qu'il n'y a pas d'étape inutile dans la vie. Celle-là a dû être fondamentale parce que c'est vrai que de la jeune fille, petite fille que vous décriviez extrêmement timide, pour quelqu'un timide, vous étiez drôlement fonceuse et allée vers les gens jusqu'à mentir pour obtenir ce qu'on veut et finalement se retrouver dans le poste. Ce n'est pas un parcours typique de la timide typique.
Mais je suis timide, mais je suis capable de, effectivement, je suis capable de défoncer des
timide,
portes.
Timide, mais créatrice.
Oui, puis c'est surtout que moi, je suis pas capable d'être malheureuse, je pense. Fait que j'ai besoin de créer mon bonheur, je pense. Fait que je vais toujours essayer d'aller chercher. Je suis une battante.
Oh, ça, c'est sûr.
Ouais.
Mais vous avez la flamme.
Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! C'est bon. C'est vrai que j'ai la flamme. Tu sais, c'est vrai que j'ai du feu en dedans de moi.
Oui, oui.
Puis qui me pousse à aller plus loin. Puis je suis pas capable de. Puis ça m'est arrivé des fois d'être très fatiguée, là, d'être fatiguée de me battre, puis de le dire, je suis tannée de me battre. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'ont plus facile que moi. Puis oui. Moi, je suis tannée de me battre, je suis tannée de frapper des noms, tu sais, des refus. J'étais tannée à un moment donné.
Est-ce que vous, sincèrement, vous en connaissez beaucoup des gens qui sont journalistes, écrivains et qui l'ont facile et qui ne se battent pas?
Ah, oh, je connais beaucoup de battants, mais il y en a qui l'ont plus facile. Mais ils vont peut-être se battre dans d'autres facettes de leur vie, tout ça.
Ils se battent moins avec le temps parce qu'il y a l'expérience qui s'accumule. Est-ce que votre mère est une battante, justement?
Oui, oui, oui.
Elle l'est toujours?
Oui, oui.
Donc, il y a aussi ce modèle, non?
Oui, puis tu sais, dans la vie, on passe par des fois des périodes de découragement, puis c'est correct. T'sais. Ces périodes-là, ça nous permet de... Après ça, tu sais, on plonge au fond de la piscine, puis après ça, on remonte à la surface, puis on se dit, ah oui, j'ai trouvé...
C'est des périodes de lucidité qui sont souvent, a posteriori, des périodes qui nous « ground »,
oui,
pour parler français.
Qui nous permettent d'avoir la révélation de ce qui va nous amener ailleurs.
Plus loin, oui. Ouais. Oui, en effet.
Ouais.
Alors ça, ces années-là, donc, sont des périodes flamboyantes, comme on l'a dit. C'est le début de la vingtaine,
mais... Là, j'ai fait comme de 20 à 26.
D'accord. On a fait le
jusqu'à le 26.
C'est quand même 6 ans, ça n'en est pas 30.
Ouais,
donc, énormément de choses en 6 ans. Ouais. À quel moment est-ce que vous diriez que vous avez connu ce doute?
Ah, oh, bien, le doute, il vient tout le temps, tu sais, à des périodes... Tu sais, à un moment donné, c'est peut-être justement, juste avant que je commence à écrire Indiana Jones, je me disais, j'ai pas de rêve, j'ai pas de passion, je sais pas quoi faire dans la vie. Puis je savais plus quoi faire, j'aimais plus vraiment être journaliste. Je me voyais pas continuer à me battre pour faire de la télé parce que j'aimais pas ça tant que ça. Je savais pas ce qui était moi. Puis jusqu'à temps que ça me frappe, que ce qui était moi, c'était d'écrire un roman, puis c'était ça que je faisais depuis que j'étais petite. Puis c'est là que j'ai décidé de... Puis si ça n'avait pas marché, j'aurais trouvé autre chose. Puis ça se peut que dans 3 ans, j'ai à trouver autre chose. Parce que tout le temps comme ça, tout est toujours à recommencer.
Oui, c'est sûr. Il y a des moments de remis. Enfin, en fait, où les compteurs se remettent à zéro. Se remettent à zéro. Il reste que ça a été un bond à ce moment-là. Comment diriez-vous que votre écriture journalistique, que vous avez quand même pratiquée abondamment pendant 6 ans... Tout ce travail de communication, de journalisme, de dégénage, voici un mot qu'on vient d'inventer, à partir d'un mot qui est déjà lui-même pas forcément très français, très conforme, mais bon, c'est celui-là, il me plaît bien.
À trouver, il y avait...
Télé.
Ah oui, excusez, je veux juste faire une parenthèse. À trouver, il y avait une pancarte « Stationnement gênant ». Je trouvais ça vraiment drôle, je l'ai pris en photo. OK, parenthèse par rapport. Télé, oui, télé.
Moi, quand mon fils était petit, que je me garais, il me disait « Maman, t'es stationnée en dessous du panneau, il est interdit de stationner ». Bon, là, c'était gênant, par exemple.
Oui.
Donc, je disais, Comment diriez-vous que votre écriture journalistique, que vous avez abondamment pratiquée du magazine Cool, mais aussi dans le Journal de Montréal, qui est une immense école, parce que bon, c'est un journal à quotidien, c'est complètement autre chose. J'étais un an au Journal de Montréal avant d'être à la presse.
Ah oui?
Et c'est vrai que ce sont des grands professionnels, etc. C'est un environnement aussi. Et d'autre part, le déjeunage, on reprend le mot, de la télé. Comment est-ce que ça a produit votre écriture littéraire et comment ça l'a influencé? Si vous analysez la chose, qu'est-ce que vous diriez?
Moi, c'est sûr que je trouve que ça a une grande influence parce que quand tu es journaliste, surtout au Journal de Montréal et même au magazine Cool, tu dois développer un rythme, des phrases courtes.
Oui.
T'écris pour être compris.
Oui.
T'écris pas pour faire une analyse. Oui. T'écris pas pour démontrer que tu as un grand vocabulaire littéraire. T'écris pour informer.
Oui.
T'écris pas pour te faire lire. Je sais pas si.
Oui. Mais pour informer tout de suite, pour aller tout de suite à l'essentiel.
Tout de suite à l'essentiel. Et,
et puis pas pour donner une opinion personnelle.
Non, pas vraiment. Donc, l'écriture de magazine, c'est une écriture très rythmée. C'est une écriture où tu peux te laisser aller au niveau de l'humour et tout ça. Donc, moi, je pense que ça a beaucoup influencé mon style parce que je suis quelqu'un, justement, qui va à l'essentiel. Je suis quelqu'un... je pense que mon écriture est rythmée, mais c'est sûr que je me laisse beaucoup plus aller dans mes romans que j'ai pu le faire, même dans les magazines ou dans le Journal de Montréal. Mais je pense que ça m'a beaucoup... c'est sûr que ça m'a influencée.
Alors, India Jones, donc, vous l'écrivez, comme vous l'avez dit, de manière... c'est très bien décrit, parce que je pense que c'est un processus qui est inévitable. Souvent, les gens disent, je ne dirai pas son nom ici, une écrivaine qui est ma voisine immédiate, et me dit, les gens viennent me voir et me disent, j'ai une idée. Bon. Et elle me dit, s'il suffisait d'avoir une idée, parce qu'effectivement...
C'est ça, non.
Des idées, on en a beaucoup. Et après, il y a ce que vous avez décrit, et ça me plaisait bien que vous le décriviez comme tel, la nécessité de s'organiser, la nécessité d'avoir un rituel, la nécessité d'être chez soi, mais de se discipliner à le faire, et la nécessité d'accepter de gagner moins d'argent, ce qui veut dire aussi d'autres formes de contraintes.
Oui.
Donc, de croire en soi pour quelque chose d'essentiel.
Oui.
Cette période-là, elle durait combien de temps jusqu'à ce que vous arriviez à produire votre roman?
En fait, elle s'est prolongée parce que j'ai sacrifié, je dirais, 5 ans de ma vie pour 2 ans pour India Jones et après ça, 3 ans pour Aurélie. Et ça a été 3 ans où est-ce que j'étais totalement heureuse, bien plus que quand je faisais de l'argent au Journal de Montréal ou à faire de la télé, parce que je faisais ce qui était moi puis ce que j'aimais. Donc, c'est des contraintes. C'est 5 ans de ma vie où je ne me suis pas acheté de linge, de meubles. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. Au bout de 5 ans, je suis allée m'acheter une paire de souliers parce que je ne pouvais plus sortir dehors quand il pleuvait parce que mes souliers avaient trop de trous. Donc, puis ça a été une dépense, là. Tu sais, j'y ai réfléchi, puis... pour mon lancement d'Aurélie, je me suis même pas acheté de nouveaux vêtements parce que... puis, tu sais, même aujourd'hui, là, pour venir ici, là, je me disais, c'est quand même, tu sais, sérieux, tout ça. Puis je voulais m'acheter quelque chose de nouveau, puis je me suis dit, non. Tu sais, je fais super attention. J'allais pas dans les bars boire de l'alcool, c'est cher. J'achetais pas de bouteille de vin... je buvais pas. Donc, quand on allait dans un souper, j'étais du genre à apporter un petit cadeau d'hôtesse, pas apporter de vin, et donc, je buvais pas. Je buvais pas dans les bouteilles des autres non plus. J'ai vraiment sacrifié vraiment beaucoup de choses de 25 à 30 ans. C'est quand même des années où, tu sais, on est jeune, on peut faire le party, tout ça. Moi, j'ai tout concentré mes énergies pour l'écriture de mes romans.
Oui. Mais en fait, je Je vous remercie de raconter ça. Je trouve que c'est une façon... D'abord, évidemment, c'est jamais l'image glamour qu'on a. Non. Et surtout pas d'une jeune femme jeune, jolie, talentueuse, etc., qui est l'image que vous pouvez projeter.
Oui.
C'est important de dire qu'il y a des processus derrière.
Puis il y a des gens qui peuvent dire « Ah, oh, elle a eu un succès instantané, nanana. »
Oui,
mais
puis,
non,
oh, ça, mon Dieu, ça a
oui,
été...
Oui, c'est juste que ça, c'est, ce succès-là, il est arrivé après beaucoup d'années de travail et beaucoup de sacrifices que je continue à faire aujourd'hui parce que l'écriture au Québec, c'est pas quelque chose qui fait que tu as une piscine creusée dans ta cour, là, tu sais. C'est pas quelque chose qui fait que tu peux te payer un chalet puis des voyages partout. C'est quelque chose que, oui, présentement, Aurélie Laflamme, c'est un bon vendeur en librairie, tout ça, puis je touche du bois, je me sens extrêmement chanceuse. Mais je sais très bien que Indiana Jones, par exemple, ça a vendu 10 000 copies. Donc, j'aurais pas pu, je peux pas vivre avec ça. Donc, ça se peut que mon prochain projet, ça soit ça. Donc, tu sais, moi, je suis consciente, quand j'ai choisi, quand je me suis dit, OK, c'est ça qui me rend heureuse, là, je l'ai trouvé, là, c'est ça qui me rend heureuse. Bien, ça va être ça, ma vie. Moi, je fais la simplicité volontaire, puis j'écris.
C'est ça. Et c'est le moment ou jamais de rappeler que ce sont des exceptions absolues, genre multipliées par 10, mm-hmm. par rapport à la vente moyenne des livres au Québec, la vente moyenne étant de 500. Donc, si on des livres en général au Québec, c'est ça. Donc, on peut remettre les choses dans leur contexte. Si vous aviez été publié, mais pas avec ce succès-là que vous avez, comment vous l'auriez vécu?
Bien vécu. En fait, pour Indiana Jones, avant que j'aie l'idée pour Aurélie Laflamme, Indiana Jones, ça a vendu 5 000 copies. On s'entend que 5 000 copies, je peux pas me dire « Ah, je vais en faire une carrière ».
Oui.
Parce que 5 000 copies de livres à 20 $
oui.
sur lesquels je fais 10 %,
10%, oui.
Ça fait 10 % de 20 fois 10 000. Bon, en tout cas, ça fait 10 000. C'est ça? 2 fois 5 000, c'est ça, ça fait 10 000.
Oui.
10 000 piastres. Qui vit avec 10 000 piastres? Personne, là, tu peux rien faire avec ça. Tu peux le mettre de côté dans tes REER. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté...
On peut en vivre, mais...
Je me suis acheté un set de chambre. Je me suis payé une petite vacance pour la première fois depuis super longtemps. Puis le reste, c'est ça, j'ai mis en REER.
Oui.
Fait que, tu sais, je me suis peut-être acheté du foie gras. Non, c'est pas vrai.
Des nouveaux souliers.
mes nouveaux souliers. Mais c'est ça. Mais donc, après ça, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, OK, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans.
Oui.
Je fais pas d'argent avec ça. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis là, je me suis dit, bon, mais je vais reprendre quelques piges de journaliste, tout ça. Et là, j'ai été très malade, mais ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas rendu là. Je ne veux pas vous.
Mais on va être rendu là, oui.
Je me suis dit, ben je vais continuer, je vais en écrire un deuxième.
Oui.
Parce que j'adore ça.
Oui.
Fait que je vais continuer à faire la même chose, les mêmes sacrifices que je faisais pour le 1. Je vais les continuer, puis je vais en écrire un deuxième. Parce que j'aime ça. Puis j'avais 28. J'avais 28 ans à l'époque, puis je me disais, bon, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de projet à ce niveau-là, j'ai pas d'hypothèque. Je peux me permettre d'en écrire un autre comme ça, puis de faire encore ces sacrifices-là. Donc, j'avais fait le choix d'en faire un deuxième. Sauf que là, j'ai été très, 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 très malade. J'ai eu une embolie pulmonaire. Que ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un caillot de sang dans le poumon. C'est comme une crise cardiaque, mais au lieu d'être dans le cœur, c'est dans le poumon. Et j'ai failli mourir. Et heureusement, j'ai survécu. Et le minou dont je vous parlais, qui était Sybille, à cette époque-là, pendant que j'étais à l'hôpital, elle s'est laissée mourir. Quand je suis revenue de l'hôpital, elle est décédée. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Et donc, dans cette époque-là, j'ai côtoyé la mort parce que j'ai failli mourir, mon minou est décédé, tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à la mort. Et je me suis demandé, si j'avais un enfant aujourd'hui, comment je lui expliquerais la mort? Quelles sont mes croyances à moi? Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de croyances, que j'étais agnostique. C'est vraiment là que j'ai déterminé ça.
Oui.
Je ne suis pas athée parce que j'ai une croyance en quelque chose. Je ne sais juste pas c'est quoi.
Quelque chose de plus grand que soi.
Puis, c'est ça qui est agnostique. Puis je me suis dit, comment les jeunes d'aujourd'hui vivent leur questionnement existentiel sans les repères spirituels qui pouvaient exister à d'autres époques? Les adultes d'aujourd'hui puisent leur spiritualité un peu partout, tu sais, dans le yoga, dans l'alimentation, dans la psychologie, dans le secret, tu sais, un peu, on est tout mêlé dans, on a besoin de repères, mais on ne sait pas où aller les chercher. Puis je me suis demandé comment les jeunes d'aujourd'hui vivaient leur questionnement existentiel. Avant, il y avait des repères, maintenant, il n'y en a plus. Donc, puis je trouve ça positif quand même parce que je trouve que peut-être qu'on peut grandir un petit peu plus en allant chercher ses propres réponses. Et c'est vraiment comme ça qu'est née Aurélie Laflamme, 14 ans, dont le père était décédé quand elle avait 9 ans et dont la mère agnostique, comme moi j'aurais été comme mère, n'a pas été capable de lui donner une belle image de la mort. Et ça a été vraiment le départ de la série et aussi que j'avais promis à Sybille de la faire renaître dans une histoire. Et je l'ai faite renaître dans Aurélie Laflamme. Et pour moi maintenant, je sais où. J'ai plus besoin de me questionner, elle est où dans l'univers, mon minou, et dans les romans Aurélie Laflamme.
À propos d'agnosticisme, c'est les Grecs, enfin, entre autres, et surtout, et on dirait une tragédie grecque, c'est-à-dire les dieux ont demandé que quelqu'un meure pour que quelqu'un vive.
Mm-hmm. Ah oui, des fois je le vois un peu comme ça. Pour moi, Sybille, c'est vraiment le cœur de cette série-là, puis c'est étrange parce que des fois, j'ai l'impression, ben voyons, je ne sais pas ce que j'allais dire, je l'ai donné à quelqu'un qui en avait besoin,
oui.
Qui était Aurélie. Parce que Aurélie, c'est un personnage, dans mon cœur, elle existe.
Oui.
Et dans mon cœur, elle avait besoin de Sybille, comme moi, j'en ai eu besoin. Puis j'en parle, là, puis je t'ai mis. Mais comme moi, j'en ai eu besoin à mon adolescence. Voyons, je suis là que je pleure.
J'ai pas de mouchoir.
Mais c'est ça, pour moi, ça a été très, très important. Voyons, je me sens assez conne. Ça sera pas sur un site Internet, là?
Il y a tout le monde, toute la
c'est
communauté
pas sur Internet.
Internet.
Okay.
C'est pire, ça va être à la télé.
Oh non!
Non, mais j'entends extrêmement bien ce que
vous
dites. Mais
à chaque fois que je donne des conférences, là, puis j'en donne pas beaucoup, OK? Parce que justement, je me donne à fond dans mes émotions. Puis pour moi, Aurélie Laflamme, c'est tellement une histoire importante. J'avais tellement quelque chose à dire d'important qu'à chaque fois que je donne des conférences, je suis portée comme ça à avoir une émotion. Tu sais, puis ça fait 6 livres que j'écris, là, puis ça fait depuis 2006 que je raconte mon histoire, puis ça me touche encore comme ça. Donc, tu sais, vous parliez de flamme, là, la flamme, je l'ai, là, puis tu sais, il y en a qui me disent « Ah, oh, tu vas-tu trouver ça dur? 8 tomes à écrire? » Non, non, moi j'ai 8 tomes à écrire, puis ça va être plus dur de la quitter que...
Je vous rappellerai que je vous parlais des Grecs, mais là maintenant je vous parlais des Hindous.
Ah oui.
Alors, c'est aussi cette flamme dont vous parlez, c'est précisément la croyance de la réincarnation d'un être humain dont l'esprit s'en va pour s'en aller vers un autre. Mais qu'est-ce qui fait que l'esprit d'un être vivant s'en va pour aller dans un autre? Eh bien, c'est le feu.
Ah oui?
Puisque, évidemment, on brûle les cadavres.
Ah!
Bon, on en parlera une autre fois.
Ben oui, c'est intéressant.
Mais réfléchissons.
Oui, oui.
Réfléchissons. C'est une façon de voir les choses comme plus grand que soi. Il y a quelque chose de plus grand que soi. Mais il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église ou de religion unique pour dire ça.
Mm-hmm.
Effectivement, puis j'entends bien votre émotion et j'entends bien l'initiation dont vous parlez. C'est une sorte de rituel initiatique aussi, c'est-à-dire j'écris un livre, India Jones, il sort finalement en 2005 avec un succès qui est un véritable succès par rapport au Québec.
Oui.
Et puis là, il y a cette maladie très grave et effectivement fatale la plupart du temps, assez rare pour des gens très jeunes en plus.
Oui.
Et
en santé, en plus, là. Moi, je ne fume pas.
Ben, c'est ça, qui ne fume pas, qui ne boit pas,
non.
J'allais dire. Et on dirait vraiment une sorte de rituel initiatique dont, comme dans chaque rituel initiatique, on sort, grandit et on franchit une étape et en fait on recrée la vie. Et c'est Aurélie Laflamme qui sort de là. Il y a quelque chose qui est plus grand que vous là-dedans aussi.
Moi, j'avais besoin de dire quelque chose aux ados. C'était très important pour moi. Puis, il a fait partie de ça aussi encore. Ça a encore rapport à la mort. Une petite fille qui était venue me voir au Salon du livre de Montréal en 2005 pour Indiana Jones, quelques mois avant mon embolie. Puis ça, je le raconte pas souvent. Je le raconte à vous, mais ça, là, je le raconte seulement quand on me le demande, parce que le deuxième tome est dédié à Roxane. Ça, une petite fille, elle vient me voir au Salon du livre, elle me dit, « Allô, je m'appelle Roxane, j'ai lu ton livre deux fois, puis j'ai trouvé ça bien bon. » J'ai dit « Ah, merci d'avoir lu mon livre, c'est donc bien gentil. » Elle dit « Ben là, c'était comme pas un supplice, genre. » Puis je l'ai trouvé super drôle, tu sais, je l'ai trouvé super cute. Elle s'appelait Roxane. Puis quelques mois plus tard, j'ai vu dans le journal que Roxane est décédée. Elle a fait une overdose d'ecstasy. Puis ça m'a fait énormément, énormément de peine que cette petite fille-là, de 14 ans, qui était belle comme un cœur, vraiment, là, de voir que Roxane, elle avait pris de la drogue, puis qu'elle était décédée, tu sais, je comprenais pas. Puis pour moi, c'était quelqu'un qui avait peut-être pas su comment utiliser ses outils dans la vie. Puis je pense que j'ai vraiment voulu écrire un livre avec une fille qui même si elle vit beaucoup d'obstacles, elle les traverse. Puis c'est pas des obstacles. Aurélie, là, sa vie, là, c'est pas des obstacles de drogue, de violence, de sexe, de... C'est vraiment des obstacles de la vie de tous les jours, c'est-à-dire avoir un devoir qu'elle n'est pas capable de faire, se lever avec un bouton. Son père est mort, c'est une grande chose qui est arrivée dans sa vie, qu'elle traverse à tous les jours. Elle a à vivre avec ce fardeau émotif-là, mais c'est quelqu'un qui traverse les obstacles de la vie. Puis pour moi, c'était super important de dire aux jeunes que la vie est belle malgré des obstacles, parce que ça me fait de la peine quand un jeune meurt d'une overdose, parce que ça me fait de la peine quand un jeune se suicide. Puis j'avais pas envie d'écrire un livre sur le suicide. Ça m'intéressait pas. J'avais envie d'écrire un livre sur la beauté de la vie, sur la beauté du quotidien. C'est vraiment ça que je voulais faire. Puis dans les romans fantastiques, les héros se battent contre des monstres et des dragons. J'avais envie de faire un personnage de la vie quotidienne qui se bat contre les démons de la vie, contre ses démons intérieurs, puis contre les monstres qui peuvent arriver dans la vraie vie.
En effet, et ceux qu'on a tous les jours, et c'est effectivement ce que je pense qu'un des messages importants de cette série, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'on pense que c'est soit le décrochage, soit la drogue, soit l'alcool, soit ceci, cela, mais tous les jours, on se lève avec un obstacle.
Oui. Tous les jours, il y a quelque chose dans la vie qui pourrait faire que, tu sais, juste se lever puis il fait pas beau trois jours de suite, moi, personnellement, ça m'énerve, tu sais, puis ça me joue ses émotions. Puis il faut que je trouve un moyen d'être de bonne humeur pareil, parce que j'haïs ça, la pluie, puis ça m'énerve, puis je peux pas faire d'activité. Puis pour moi, ça représente un obstacle. Donc, tu sais, comment traverser cet obstacle-là? Oui. Comment être heureux dans la vie? Comment trouver que la vie est belle malgré tous ces petits irritants-là? Puis c'est pour ça que je me suis donné le défi d'écrire un livre où est-ce que je ne parlerai pas de drogue, je ne parlerai pas de gang de rue, je ne parlerai pas... Parce que pour moi, il y a plein d'autres affaires qu'on peut vivre. Et puis les jeunes s'en font beaucoup parler de ça. J'en parlais avec quelqu'un à un moment donné, qu'à l'école, tu sais, t'as des cours sur des condoms puis la sexualité, mais t'as pas de cours d'alimentation, tu sais, alors que l'alimentation, ça serait tellement... Moi, j'aurais tellement aimé ça, avoir des cours d'alimentation, bien plus que des cours sur la sexualité, que, anyway, c'est quelque chose que t'apprends un peu sur le tas, ça, tu sais. Tandis que l'alimentation, tu sais, je sais pas, il y a tellement de choses intéressantes là-dedans que moi, si j'avais su... j'aurais mieux performé à l'école, tu sais, des choses comme ça.
Qu'est-ce qui vous a sauvé, vous, de votre embolie? Je ne vous parle pas des médecins. Qu'est-ce qui vous a, fondamentalement, qu'est-ce qui vous a sauvé? Qu'est-ce qui vous a permis de traverser cet obstacle-là?
Les gens autour de moi. À l'hôpital, c'est vraiment les gens. Puis aussi les infirmières. On parle beaucoup du système de santé qui n'est pas bon, mais le système de santé est vraiment très bon quand tu es malade. Ça m'aurait coûté une fortune. Tu sais, l'autre jour, je lisais dans un article dans le journal, puis là, il y avait une madame, elle disait « Ah, oh, c'est plus facile avec mon chat, mais tu payes avec ton chat, tu sais, pour avoir les services. Nous, on ne paye pas, tu sais. » Puis c'est vrai qu'il y a des failles dans le système, mais moi, ils ont vu que j'étais malade et ils m'ont sauvée, tu sais. J'aurais pu mourir si j'avais pas, s'ils ne m'avaient pas donné le bon produit à temps, qui était de l'héparine pour éclaircir le sang. Et tout le monde s'est super bien occupé de moi. Puis c'est vrai que j'ai été dans le corridor pendant 3 jours, mais je n'ai jamais manqué de soins dans le corridor. C'est vrai qu'il manque de chambres, mais le corridor, ça ne m'a jamais dérangée d'être là. Anyway, j'étais trop malade pour me rendre compte j'étais où. Et même, je te dirais que quand j'ai été dans une chambre, je m'ennuyais du corridor parce que dans le corridor, j'avais tout le temps des infirmières, je pouvais tout le temps appeler « je veux des calmants, je veux des… » Puis il arrivait en une seconde, puis quand j'étais dans une chambre, c'était plus long. Donc, tu sais, c'était…
En fait, il faut beaucoup de monde pour sauver une personne.
Oui, c'est ça. Puis les infirmières sont dévouées. Puis je voyais des gens qui n'étaient pas gentils avec elles. Puis ils font tellement leur possible, ils sont pas beaucoup. Puis ils sont tellement humaines, ils veulent ton bien, puis…
Alors, nous, on est contents d'avoir que vous soyez là, ensuite, parce que ça a donné naissance à cette série. Dites-moi comment vous avez conceptualisé les 8 tomes et le fait qu'il y en ait 8, et comment vous passez de l'un à l'autre.
Bien, c'est spécial, c'est dur à expliquer, ça.
Est-ce qu'au début, vous en avez écrit un, puis après ça, il y a eu Roxane, vous en avez écrit 2?
Non.
Non, vous les avez conceptualisés 8.
Oui, pour moi, c'était 8. En fait, au début, je me disais 3, une trilogie. Puis après ça, je me suis dit, non, ce que je vais faire, je sais pas, on dirait que ça a fait tout dans ma tête, puis je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, ça commençait, elle avait 14 ans, je voulais que ça se termine à son bal de finissant. Puis là, je me suis dit, je me suis dit, 4 mois par tome, ça va faire à peu près ça. J'avais le goût de pouvoir m'exprimer. Tu sais, je ne sais pas comment expliquer qu'est-ce qui est arrivé. J'ai commencé, là, j'avais 5 pages du premier tome, puis j'ai commencé le 4e tome. Pour moi, on dirait que tout s'est placé. Je savais exactement qu'est-ce qui allait où.
D'accord.
Puis quand j'ai des idées, j'ai 8 dossiers chez nous. Quand j'avais des idées, c'était ça serait bon dans le 3, ça serait bon dans le 7, ça serait bon. Je savais exactement.
Et comment avez-vous décidé que ça serait un journal? C'est venu tout de suite?
Oui, ça allait de soi à cause de ce que je faisais dans le magazine Cool.
D'accord.
On dirait que. Puis aussi, le journal intime, pour moi, ça me permettait d'aller profondément dans les pensées d'un personnage. Ça permet aussi une liberté d'écriture que tu n'as pas avec le roman. C'est-à-dire que moi, je change souvent de temps de verbe. Des fois, je vais être au présent. Des fois, je vais être à l'imparfait. Parce que selon l'heure où elle décide de raconter ces choses, dans un roman, si tu décides de présent, que tu choisis le présent, c'est... Tu parles du présent de la page 1 à la page à la dernière page.
Oui, enfin, on peut parler de ce qu'on a fait la veille dans le roman aussi, à l'imparfait.
Oui, mais tu sais, c'est plus...
Il y a plus de codes.
Il y a plus de codes. Ça me permettait d'aller dans sa tête, parce que c'est un journal intime.
Oui.
Sauf qu'en même temps, c'est plus ses pensées qu'un vrai journal pour moi. Parce que des fois, il se passe des affaires, puis elle l'écrit de minute en minute, puis elle est à l'école.
Oui.
C'est sûr qu'elle n'est pas en train d'écrire pour de vrai dans son journal. Donc, je joue un petit peu avec les codes du journal intime. En plus, je mets des dialogues. Souvent, tu vas peut-être pas mettre les dialogues dans ton journal intime. Ben, des fois, tu vas dire, puis là, il m'a dit ça, puis là, j'y ai dit ça, puis là, il m'a dit ça. Fait que, tu sais, j'essaie un petit peu de le faire de cette façon-là. C'est pour ça que mes dialogues, je les fais comme moi, 2 points... ma mère, 2 points.
Oui.
Tu sais, je joue un petit peu avec ça. Tu sais, dans un livre, ça va être plus un tiret, le dialogue, m'a-t-elle dit? Tu sais, des choses comme ça. Ben, moi, j'ai décidé de le faire un petit peu plus moderne. Puis, c'est ça. Donc, c'était vraiment pour
rentrer. Il y a
aussi le
fait que quand on lit un journal et qu'on est une adolescente aussi, la plupart du temps, on est... on s'identifie immédiatement. Ouais. Il y a cette notion d'identification. Ouais. Est-ce qu'elle est importante pour vous? Quel est le rapport, justement, que vous avez avec votre public et l'identification de votre public, non seulement à Aurélie, mais à vous?
Ben, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs lectrices qui, ou même lecteurs qui viennent me dire « Merci d'avoir écrit ma biographie! » Ils se reconnaissent au bout. T'sais, même il y a des fois des affaires, là, ils me disent « Hey, telle affaire, c'est arrivé quasiment la même scène à mon école! » C'est drôle parce que moi, quand j'étais ado, t'sais, je me sentais comme une extraterrestre, puis j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Puis on dirait que j'ai écrit des livres pour... je trouve que les ados sont mal compris, tu sais. Toutes les émotions que tu vis intérieurement, puis tout ça. Puis dans ton visage, ça paraît pas parce que t'essayes de rester... Tu vis plein d'affaires en dedans, ça bouillonne, mais... Tu sais, t'essayes de rester stoïque pour pas...
Puis tu soignes tes boutons, en plus.
Oui, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, t'as un adulte qui vient à côté de toi puis qui dit « Accroche-toi donc un sourire d'en face, mais... » Là, tu sais, tu dis « T'as donc bien l'air bête. » Ben non, je suis pas bête. Ça me semble, tu sais, c'est pas... Puis là, tu sais, tu te sens comme tellement... je sais pas comment dire ça, mais... tu sais, sous le spotlight, puis tu voudrais pas, tu sais, tu voudrais juste être oublié. Puis moi, j'avais le goût d'écrire un livre où est-ce qu'on pourrait un peu comprendre les émotions des ados. Parce que quand on vieillit, on dirait qu'on les oublie. On oublie l'ado qu'on a été. Puis ça, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est là que tu avais justement le feu intérieur, puis que tu voulais changer le monde, puis que tu découvrais toutes les émotions, puis tout ça. Puis je suis contente que des ados me disent « merci de me comprendre » ou des mamans, des fois, elles me disent « ah, ça m'a permis de comprendre un peu mon ado, puis on s'est parlé de telle chose. » Donc, je le fais pas pour ça, mais c'est... Ben oui, un peu, c'est... Pour moi, je trouve que j'avais des émotions à l'époque. J'avais pas le vocabulaire pour exprimer mes émotions. Puis avec Aurélie, tu sais, j'ai les mêmes émotions, mais j'ai le vocabulaire. Donc, je pense que c'est ça qui permet la connexion. Quand j'étais au magazine Cool et que j'interviewais des ados, je faisais l'entrevue. Puis les ados me répondaient seulement oui, non, oui, non. Puis moi, j'avais deux feuillets à écrire. Ça, c'est 1600 mots, je pense. Fait que, je me disais, bon, OK, fait que je leur mettais des mots en bouche selon ce que j'avais ressenti de la personne. Puis là, après ça, je les appelais, puis je leur lisais, puis je faisais, ah oui, c'est en plein ça que je voulais dire. Puis je me suis vraiment rendu compte que j'avais une connexion. On dirait que j'étais capable de comprendre ce qu'il y avait en dedans. Fait que je me suis dit, bien ça, c'est un de mes talents, ça, de comprendre les ados, puis je vais l'utiliser.
Êtes-vous toujours aussi complice avec votre maman?
Ben oui, ben oui. C'est sûr, elle est ma première lectrice.
Ah!
Ben moi, j'ai tout le temps plein de doutes, là. Fait que j'ai besoin que ma mère, elle me dise qu'elle a aimé ça. Si ma mère, elle me dit qu'elle a aimé ça... Ma sœur, tu vois, j'ai travaillé avec elle. Je sors un agenda scolaire Aurélie Laflamme. Il va sortir le 10 juin. Puis il est vraiment beau, là. En tout cas, moi, j'ai, avec l'illustratrice, on a travaillé. Puis ma sœur, elle a fait les recherches.
Ah.
Donc, elle a sorti plein d'affaires intéressantes. Elle s'est toute occupée des recherches. Donc, elle a trouvé plein de sites Internet cool, de dictionnaires en ligne, d'émoticônes. Fait que je travaille avec... Ma sœur et moi, on est très complices aussi. Puis on travaille ensemble sur des projets en commun.
India, je dois vous dire vraiment, et c'est très, très sincère, que je suis très heureuse d'avoir fait cette dernière entrevue avec vous et de vous avoir découverte pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous communiquez.
Merci.
Et je rappelle que le sixième tome d'Aurélie Laflamme sort le 20.
Le 20 mai, oui.
Le jour où je vais être rentrée de Paris.
Oh!
Peu importe, mais effectivement, vous aviez amené ce livre qui est là et on n'a pas le temps. Je vous avais dit, si on a le temps, vous pourrez en lire un extrait.
Fiu! Je suis tellement pas bonne pour
mais
faire ça.
Mais en tout cas, le livre est là, c'est le 20 mai, c'est le sixième tome, il en restera deux autres.
Oui.
Et vous avez dit qu'après, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous allez faire après?
Non. Bien, là, je suis en train de travailler parallèlement sur un autre roman adulte, un petit peu comme Indiana Jones, une comédie romantique. Puis, il y a le 10 juin, mon agenda scolaire 2009-2010, qui va être super écœurement beau.
La collaboration des sœurs.
Des sœurs jardins. Et de l'illustratrice.
Eh bien, oui, bien sûr, de l'illustratrice.
Oui, qu'elle a fait un travail colossal. Ça va être beau, là, ça...
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Et très sincèrement, et je vais voir, donc là maintenant, c'est le moment où c'est notre public, notre jeune et moins jeune public, qui peut poser quelques questions à Ilia.
Il y en reste-tu, il me semble, j'ai
donc,
tout dit.
N'hésitez pas, parce que
j'ai
ensuite,
vraiment tout dit.
Elle va...
Oui.
Ah! Ah! Puis j'aurais voulu dire que j'étais baptisée Gigi à cause du roman de Colette.
Ah oui!
À cause du film avec Maurice Chevalier et Caron. Alors, c'est ça, je connais pas beaucoup avec ce que tu as dit.
Ah oui!
Moi, j'ai eu des cartes scolaires.
Oui.
Et puis, c'est ça, la souris de la flamme est au primaire. Moi, je suis primaire. Et mon secondaire à moi, c'est hyper populaire, c'est sûr. C'est toujours attendu. Là, on sait que ça s'en vient.
Ah, c'est le fun. Ça me touche toujours quand des bibliothécaires me disent ça.
Ben, bien sûr. Et puis, il y a toutes ces tournées que vous faites, la rencontre avec les jeunes, etc. Vous avez deux micros de chaque côté. Alors, surtout, n'hésitez pas à y aller. Posez votre question
à
India.
Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, quand j'ai écrit ma série, jamais j'aurais pensé que ça aurait du succès comme ça. C'est une belle surprise de la vie.
Mais Elisa, je veux dire, quelque chose que j'ai remarqué chez les jeunes, le fait que la jeune héroïne a perdu son père,
oui.
Ça approche beaucoup des lectrices.
Ah oui?
Beaucoup, beaucoup les lectrices, parce qu'ils se disent, mais tu sais, elle vit des choses difficiles, elle a juste pas de type, c'est pas qu'elle a pas de tête, elle vit des choses difficiles. Alors, ils connectent beaucoup avec l'héroïne.
Ah, c'est le fun.
Est-ce que vous voulez y aller? Poser la question? Je les voyais en tractation, mais c'est ça, après ça, elle reviendra pas.
Vous n'êtes pas obligé d'aller au micro. vous voulez savoir si elle va reprendre avec Nicolas?
Il y a le micro.
C'est ça!
Vous pouvez prendre le micro, poser votre question. C'est ça, on ne va pas le faire longtemps, mais juste...
Salut. Allô. Moi, je travaille en ce moment sur tes romans à l'université.
Ah oui?
Oui.
C'est quoi le travail?
Bien, je travaille sur les stratégies textuelles de représentation du processus amoureux dans les romans pour adolescents.
Ah, c'est vraiment intéressant.
Il y a une question très précise que je veux me poser.
OK.
J'ai parcouru le corpus des années 80-90, puis là, je suis rendue dans les années 2000. Je me demandais pourquoi, au niveau de la sexualité, il y a une omission. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas nommé, qui n'est pas exprimé et tout. Je me disais, il y a sûrement une raison pour ça, parce qu'en général, c'est le contraire dans la littérature québécoise pour ados, enfin, jusqu'à un certain niveau.
Il y a beaucoup de sexualité. C'est comme c'est là, dans les romans. Oui, il y a une raison. Et c'est vrai qu'il y a une omission, mais... Il y a une omission, oui puis non. Parce que pour moi, dans Aurélie de la Flamme, il y a de la sexualité. Pour moi, la sexualité, c'est pas juste quelque chose de, comment je pourrais dire, de graphique, se mettre tout nu puis avoir une relation sexuelle décrite génétique. C'est quoi le mot? J'ai même pas le vocabulaire. J'ai même pas le vocabulaire pour parler de sexe.
Une relation anatomique. C'est plus qu'une relation anatomique.
Aurélie a du désir parce qu'elle devient les jambes molles, elle rougit, elle a envie d'embrasser son chum. Elle ne parle pas... Si jamais il se touche, elle n'en parle pas dans son journal. Puis si jamais il y a des relations sexuelles, elle n'en parle pas. Moi, pour moi, c'est pas tous les jeunes qui ont des relations sexuelles à... Tu sais, bien souvent, là, les jeunes ont des relations sexuelles à leur bal de finissant, puis c'est encore de même aujourd'hui, OK?
Oui, ceux qui disent, ce qu'on pense, ça n'a pas changé l'âge.
Ceux qui disent là, que ça commence à 12 ans, puis tout ça, c'est faible pourcentage, OK? Demandez à tout le monde, tous les jeunes, là, faible pourcentage. De gens qui vont vivre une sexualité.
Bien, la dernière étude disait que c'est toujours 16 ans et c'était la même chose il y a 20 ans.
C'est ça. Donc, pour moi...
En moyenne.
Pour moi, Aurélie, là, c'est une fille... Premièrement, elle est plus jeune que son âge. Elle a eu son premier French à 14 ans. Donc, comme bien du monde, là. Tu sais, fait que c'est clair que... Moi, dans ma tête, elle n'a pas de sexualité avant son bal de finissant. Je me suis donné le défi d'écrire une série où il n'y aurait pas de sexe. Je trouve que... pas de sexe graphique. Parce que, comme je te dis, il y a du désir. Mais c'est juste pas décrit.
Il n'y a pas de passage à l'acte en tant que...
À l'écrit. Parce qu'elle devient les gens molles, elle rougit.
Oui.
Donc, il y a du désir. Mais je trouve qu'on parle beaucoup de sexe aux jeunes. Puis je trouve que c'est devenu une mode dans les livres. Comme même dans Indiana Jones, il n'y a pas vraiment de sexe comme tel. Elle en parle, mais il n'y en a pas vraiment. Puis il y en a qui me disaient, il n'y a pas de sexe. Ça se passe sur 5 mois dans la vie d'une célibataire. Moi, là, ça m'est déjà arrivé, là, en tant que célibataire, de passer un an sans sexe, OK? Ça se peut! Donc, tu sais, excusez, là, de faire un coming out de même, là, mais ça se peut dans la vie qu'il n'y ait pas de sexe.
Attention, ça va passer à la télé!
Non, mais ça se peut, tu sais. Donc, je pense que... Je trouve qu'on en parle beaucoup aux adolescents de sexe, puis je trouve que les auteurs adultes qui parlent de ça, on dirait qu'ils se sentent obligés d'éduquer les jeunes sur la sexualité, alors que c'est tellement quelque chose de naturel, c'est tellement quelque chose, comme j'ai dit, que t'apprends, tu sais, comme de façon naturelle en la vie. Moi, j'ai pas envie de commencer à dire aux jeunes, il faut que ça soit à tel âge, il faut que ce soit à tel âge, il faut que ce soit fait de telle façon, il faut que le gars soit de telle manière... J'avais pas envie d'aborder ça. Puis pour moi, je me suis dit, les jeunes, les lecteurs vont avoir 2 choix. Soit de se dire, les journées qu'elle écrit pas, elle a du sexe. Soit de se dire, elle va avoir du sexe à... Tu sais, les jeunes, ils peuvent s'identifier à elle dans son quotidien. Puis pour moi, c'était vraiment un défi, là. Je me suis dit, est-ce que je suis capable d'écrire 8 tomes sans sexe? Puis ça fait 8 que j'écris. Puis pour l'instant... Je trouve que j'ai réussi à raconter une histoire où est-ce qu'il y avait du désir, où est-ce qu'il y avait des relations interpersonnelles, puis que j'ai pas de sexualité, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment un choix personnel, un choix éditorial que j'ai fait, vraiment parce que moi personnellement, en tant que lectrice, ça me rend extrêmement mal à l'aise de lire des passes de sexe. Bien, je suis comme ça. Puis des fois, je vois même pas que ça vient faire là. T'sais, qu'est-ce qu'ils veulent me démontrer? Ils veulent me démontrer... T'sais, je prends juste l'exemple, OK, de Mission Impossible 3, OK? Le film, OK? Pour nous montrer la complicité du couple, ils les font baiser au travail de la fille. Puis je me dis, moi, j'aurais bien plus cru en leur... complicité, s'il y avait eu un moment original dans leur couple, plutôt que la fameuse scène de baise, où est-ce que, tu sais, pour moi, ça ne veut plus rien dire.
C'est très attendu, en plus, bon. Mais il y a aussi la part d'imaginaire que le lecteur a et doit avoir. Il faut lui laisser lui-même combler les blancs.
Oui,
si
c'est ça.
Si on écrit tout dans un livre, ben là, c'est terminé. Le lecteur, il n'a plus de place pour se mettre là-dedans aussi.
Et puis, tu sais, moi, je suis une grande fan de la Shopaholic, Confession d'une accro du shopping. Puis, il y a des moments là-dedans où est-ce qu'elle parle de sa sexualité avec son mari, puis j'aime pas ça. Puis, c'est pas que je suis mal à l'aise de la sexualité en général, mais c'est quelque chose que j'ai pas le goût de savoir de ce personnage-là. Comme c'est quelque chose, que j'ai pas nécessairement le goût de savoir de mes amis ou de ma mère ou de... Tu sais, pour moi, c'est quelque chose d'intime. Puis je trouve qu'à un moment donné, dans les œuvres littéraires ou même dans les œuvres au cinéma, c'est devenu comme à la mode où, tu sais, on a défoncé des portes en incluant la sexualité. Mais à un moment donné, je trouve que c'est pas obligatoire. Puis on dirait que c'est devenu obligatoire d'en mettre.
C'est devenu banalisé, quoi. Voilà, en fait.
Puis moi, je veux pas que ce soit obligatoire dans mes œuvres. Mais il va peut-être avoir du sexe dans mon nouveau roman adulte.
Ah!
Parce que là, j'ai peut-être le goût d'être un peu plus olé-olé.
Finalement, la dernière des confidences sera celle-là.
Il va avoir du sexe!
Première scène de sexe par India Desjardins.
Oui, c'est ça.
Merci infiniment. On aurait pu continuer à parler très longtemps et avec beaucoup de plaisir. Et bonne chance pour ce 6e tome, pour l'agenda au mois de juin. Bonne chance pour la série et
merci.
Pour tout en général. Merci infiniment.
Puis bon voyage à Paris.
Et merci. Merci beaucoup. Alors, on va venir la voir aussi maintenant, pas en public, mais plutôt en privé. Merci beaucoup.